Accès libre.
Bonjour à tous, c'est la dernière de la saison et sans Luc. Sniff, celui-ci a un gros rhume, une petite grippe m'a-t-il dit depuis 3 jours. Alors on lui souhaite un bon rétablissement. Mais place à l'été quand même d'ici la semaine prochaine. Et à compter du 26 juin, vous avez une nouvelle mouture de M l'été qui vous chatouillera les oreilles. Clotilde Say nous en dira 2 mots tout à l'heure. Aujourd'hui, on fait le pont justement avec cette émission qui vous attend. On vous présente en table ronde le magnifique projet Montréal sans obstacles, piloté par l'Université de Concordia. À compter de juillet, les solutions les plus innovantes seront présentées à M l'été. On s'attarde également sur la réforme du droit de la famille. On parle des meilleures pratiques pour inclure des enfants à besoins particuliers dans les camps de jour. Le SQLA, film en vidéo description. C'est bon à savoir pour les journées pluvieuses comme aujourd'hui. Et tout de suite, je reçois Maxime Despomerlo, notre chroniqueuse culturelle que vous allez souvent entendre cet été. On va parler politique. Tout ça sur Canal M, la radio de Vues et Voix. Bonjour Maxime.
Bonjour Laure.
Maxime, vous êtes artiste, journaliste, productrice et vous êtes aussi chroniqueuse pour M l'été à compter du 27, non, mardi 26, vous
mardi
y êtes.
Mardi le 26, c'est oui, et la première émission.
Oui, on vous entendra 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi.
Oui, exactement. Yeah. Donc, je vais faire un petit portrait des activités culturelles qui se passent beaucoup à Montréal, on le sait, pour la saison des festivals, mais aussi ailleurs au Québec.
Oui, c'est super, on a bien hâte. Et aujourd'hui, donc, on parle politique culturelle. La politique qu'a dévoilée le gouvernement du Québec le 12 juin. Qu'est-ce que ça raconte tout ça?
Exactement, cette chronique va être un peu plus dense peut-être que mes chroniques habituelles, mais justement c'était une politique qui était attendue depuis plusieurs années par le milieu culturel et artistique au Québec. On s'entend que la dernière politique culturelle du Québec qui s'intitulait « Notre culture, notre avenir » datait de 1992. Donc quand même, c'était le temps de la mettre à jour et elle a été dévoilée justement le 12 juin dernier. J'ai regardé le Facebook Live sur la page du ministère de la Culture. Vous pouvez revoir la vidéo. Elle est toujours en ligne.
Ça vaut le coup.
Si les chiffres vous intéressent surtout. Alors, l'événement est animé par Alexandra Diaz. On a eu des discours du premier ministre Philippe Couillard ainsi que de Lisa Frula, qui était la ministre des Affaires culturelles au moment du dépôt de la première politique culturelle. Puis ce fut au tour de Marie Montpetit, qui est la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la protection et de la promotion de la langue française, de présenter les grandes orientations de la politique culturelle qui s'intitule « Partout la culture ». Donc on est vraiment allé dans une optique transversale, si on veut. Donc c'est vraiment pour mobiliser tous les ministères. Donc, pas seulement celui le ministère de la Culture et des Communications, vraiment plusieurs ministères, plusieurs organismes aussi qui se retrouvent à être des partenaires, incluant l'OPHQ, l'Office des personnes handicapées du Québec. Donc, je vais revenir un peu plus loin sur les mesures, sur certaines mesures qui, je pense, peuvent être intéressantes pour nous, pour notre auditoire. Et donc, c'est 2 ans de consultation et 72 pages plus tard, on accouche de cette politique culturelle qui a 4 orientations et 1 engagement. Je vous les nomme. Première orientation, société, contribuer à l'épanouissement individuel et collectif grâce à la culture. 2e orientation, création, production et diffusion, façonner un environnement propice à la création et au rayonnement des arts et cultures. 3e orientation, territoire, dynamiser la relation entre la culture et le territoire. Et 4e orientation, économie, accroître l'apport de la culture et des communications à l'économie et au développement du Québec. Mm-hmm. Alors, on va les voir ensemble brièvement. Dans cette première orientation, société, donc c'est un 112 millions de dollars qui est accordé à cet objectif, dont soutenir une participation culturelle élargie et inclusive. On reconnaît que la participation à la vie culturelle est influencée est influencée par divers facteurs, incluant des freins physiques, socio-économiques, géographiques, éducatifs et techniques qui peuvent être en cause. Donc, on s'attaque un peu à ces obstacles-là, mm-hmm. ce qui inclut la question de l'accessibilité, donc des populations vulnérables et des populations handicapées. La mesure 2, c'est justement encourager la pratique du loisir culturel et des initiatives utilisant la culture comme outil d'intervention sociale. Et on parle entre autres d'aller justement à la rencontre de gens qui fréquentent peu les lieux traditionnels de culture, incluant les résidents de CHSLD, les personnes handicapées, personnes issues de l'immigration, etc. Et donc, on vise aussi un soutien financier de projets visant la santé mentale, l'inclusion sociale et économique, l'éducation populaire. Mm-hmm. C'est un exemple de ce qu'il y a dans cette première orientation. Dans la deuxième, par exemple, il y a assurer une meilleure inclusion de tous les talents. On parle plus au niveau des artistes, des professionnels vraiment du milieu des arts et de la culture, et de regarder encore une fois les mesures d'équité qui peuvent être mises en place pour donner la chance à tous et à toutes, autochtones, immigrants, minorités linguistiques et ethnoculturelles, personnes handicapées encore une fois, et minorités sexuelles notamment, d'accéder à des moyens de création et de diffusion. Donc, on met en place vraiment des actions qui visent l'égalité dans tous les artistes et ainsi qu'un bon soutien, en fait. C'est entre autres une chose qui était revendiquée par le milieu.
Oui.
Les deux lois du statut de l'artiste vont appeler à être modifiées, à être mises à jour pour assurer une meilleure, un meilleur soutien à ces cadres de travail-là et à ces professionnels-là aussi. Et finalement, territoire, dynamiser la relation entre la culture et le territoire, c'est de reconnaître aussi le lien très fort qui existe, notamment dans les régions du Québec, où est-ce qu'il y a une partie du tourisme, une partie de l'économie qui se fie beaucoup aux activités culturelles. Mais il y a aussi une mesure qui a été applaudie, et c'est doter le Québec d'une stratégie gouvernementale en architecture. Visuellement, ça va être très intéressant, mais il y a plusieurs partenaires, dont le ministère de la Santé et des Services sociaux, la Société d'habitation du Québec, le ministère des Transports. L'OPHQ n'est pas là, mais on peut penser quand même que les enjeux autour de l'accessibilité universelle devraient être considérés à travers cette politique. Okay, donc, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Et il y a une autre politique qui peut être intéressante, la mesure 34, et c'est par rapport à la démarche des municipalités amies des aînés. Mm-hmm. Donc, c'est de mettre en valeur les programmes qui sont issus de cette pratique-là, MADA, donc qui est adoptée de plus en plus par plusieurs municipalités au Québec pour favoriser l'engagement citoyen des personnes aînées, des personnes vulnérables.
C'est un succès, ce programme, effectivement.
Et donc, la quatrième économie nous concerne un peu moins. C'est surtout des choses par rapport à l'entrepreneuriat, l'export, etc. Donc, je passe vite, mais l'engagement qui était important, que je voulais souligner aujourd'hui, c'est envers les Premières Nations et Inuit. Donc, vraiment un engagement particulier des mesures annoncées dans le plan d'action gouvernemental pour le développement social et culturel des Premières Nations 2017-2022. Et donc, dans ce plan, plusieurs axes, mais entre autres, favoriser la présence des cultures et arts autochtones dans l'espace public, reconnaître les langues autochtones aussi et leur rapport comme langue officielle, voir à ce que la transmission des langues et de la culture se fasse bien. Même, on parle de littérature jeunesse aussi, de traduction de romans, etc., pour rendre ça vraiment très accessible. Alors, on peut penser que ça va ouvrir la porte sur la question de la langue des signes québécoise.
Et oui, on voit loin, Maxime.
Ben, en tout cas, moi, oui.
Sur papier, c'est vraiment intéressant, hein, n'est-ce pas?
Oui, c'est intéressant, c'est dense.
Les réactions sont bonnes dans le milieu?
Oui, plusieurs communiqués ont été émis de l'Union des artistes, l'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec, l'Union des écrivains et écrivaines du Québec aussi. En général, on l'appuie beaucoup. On est très heureux, entre autres parce que les milieux ont été concertés pour conduire à cette politique. Mais il y a l'UNEC qui soulignait quand même qu'on a des élections cet automne. Alors, on espère vraiment que ça va arriver à se mettre en place et que ce ne sera pas seulement une question de partisanerie.
Et on attend les revendications ou les plans des partis de l'opposition aussi.
Bien sûr, parce que ça, c'est beau sur papier, mais encore faut-il avoir des actions concrètes.
Eh bien, Maxime, on va suivre tout ça avec vous, hein, n'est-ce pas? Durant l'été et même à la rentrée. Merci beaucoup.
Tout à fait. Merci.
Si la vie c'est de la marde, ben j'ai fourni en laxatif. Puis si l'amour pousse dans les arbres, pourquoi qu'on est aussi craintif? Si McDo mène le monde, ben je vais prendre un trio, un condo, un char pis une blonde pour qu'on puisse se prendre en photo. « Nos soirées sont un peu poches, puis nos nuits sont remplies de rêves. Y'en a des petits, y'en a des croches, puis moi je rêve à René Lévesque. Y'en a qui font des métaphores, genre la vie c'est un chemin. Moi je pousse mes gags de marde un peu trop loin. Un peu trop loin. Je suis un peu triste, mais j'ai l'impression que je suis obligé de sourire encore. Je suis un peu perdu, mais y'a Facebook pour me rappeler qu'il pleut dehors. Ça fait longtemps que je voulais te dire ça. Ça fait un bon moment, en fait ça fait 2 mois. Sur une scène, je suis tellement bien devant des millions de gens. Mais devant toi, c'est fou de voir à quel point je suis pas pertinent. Je t'ai écrit une chanson, mais j'ai pas trouvé de titre. J'ai voulu mettre ton nom, mais je sais que c'est pas fantastique. Fait que ça fait une couple de jours que j'ai de la misère à me coucher. Je suis tombé en amour, puis ça me fait un peu chier. Je suis un peu triste, mais j'ai l'impression que je suis obligé de sourire encore. Je suis un peu perdu, mais y'a Facebook pour me rappeler avec qui tu sors. Si la vie est heureuse, c'est parce que je l'aurais fait bien rire. Le présent est négligent, mais j'ai encore peur de l'avenir. C'est pas bien beau, c'est un peu sale, on est-tu bien à Montréal? Une petite guitare, 2-3 pétards, pour moi c'est ça le monde idéal. Les décisions, les auditions, les bons amis, la jalousie, la déception, l'admiration, mais j'ai pas le temps, faut que j'étudie. Pour être quelqu'un, pour être quelque chose, faudrait que je me botte le cul. Pour finalement mourir chaud, faut qu'on soit tout un peu déçu. Un peu déçu. Je suis un peu triste, mais j'ai l'impression que je suis obligé de sourire encore. Je suis un peu perdu, mais il y a Facebook pour me rappeler qu'il pleut dehors.
Dehors, d'Émile Bilodeau. Et à ma droite, Hélène Gauthier, bibliothécaire au service adapté pour Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Alors vous venez nous parler ce matin d'un sujet bien approprié. Le SQLA offre désormais, depuis plusieurs mois maintenant, des films en vidéo description.
Oui.
Comment est né ce projet?
Nous avons été approchés par le Centre de recherche informatique de Montréal, qu'on connaît sous le nom de CRIM. Ils ont leur bureau à côté du métro, dans le Milex. Donc, ils sont très intéressants comme endroit. Ils développent des nouvelles technologies. Mm-hmm. Et eux avaient développé une technologie de vidéodescription qui était vraiment très, très, très intéressante. Mais ils ne font pas la diffusion. Ils font de la production. Ils font du développement technologique. Là, ils ont fait la production des films pour nous, mais il y avait besoin d'un diffuseur. D'accord. Donc, ils se sont adressés à une bibliothèque parce que nous, on couvre, avec le SQLA, on couvre le Québec au complet pour les gens qui ont une déficience perceptuelle.
Ben oui. Et alors, qu'est-ce qu'elle avait de particulier, cette technologie?
Bien, il y a des films qui offrent la vidéodescription, qui sont offerts au grand public, qu'on peut acheter là, chez Archambault, par exemple, qui l'offrent avec les sous-titres. Ça fait partie de la même chose. Mais c'est souvent des films américains. Donc, on ne va pas trouver la culture québécoise, ce qui est important pour BANQ. Et aussi, c'est que ce sont des films qu'on écoute, c'est le format qu'on met le DVD dans son lecteur DVD, le lecteur du film n'est pas nécessairement adapté. Donc, le CRIM y est allé par deux voies. Donc, le lecteur DVD qu'on utilise à partir de son ordinateur est complètement adapté. Donc, on peut l'utiliser avec Jazz. Logiciel de reconnaissance vocale, logiciel de grossissement de caractère. Donc, la personne le met dans son ordinateur et peut utiliser les commandes clavier pour naviguer. Puis, ça offre aussi des options le synopsis du film, mais aussi une identification des personnages importants avec un échantillon de la voix. Mm-hmm. Des photos plus grosses, bien faciles à identifier des visages pour une personne qui a un résidu de vision. Aussi, lorsqu'on écoute le film, en plus de la vidéodescription, on a des options aussi. On ne sait plus trop où on est dans le film. On peut arrêter, puis le logiciel va nous dire où on est, dans quel décor on est, où on est rendu dans l'action, qui sont les personnages dans cette scène-là. Donc, ça nous permet de nous retrouver sans avoir à reculer dans le film.
Oui, ouais, ça me fait vraiment penser à un livre audio adapté.
Oui,
avec
oui.
Toutes les fonctionnalités proposées. Super.
Oui, ajouter vraiment, ouais. Puis vraiment développer d'une perspective d'une personne qui a une déficience visuelle. Ils ont travaillé avec des gens avec une déficience visuelle, donc ils étaient vraiment prêts pour ça.
Alors, combien de films on peut voir en vidéo description?
Nous avons présentement 34 titres qu'on offre en prêt. Ce sont des films, nous, on a fait le développement de collection à l'aide du personnel bibliothécaire de la section musique et films, donc vraiment des spécialistes, et on leur a demandé leurs incontournables du cinéma québécois, parce qu'on s'est dit, si la collection ne grandissait pas, si elle restait ce qu'elle était, on voulait que ça soit toujours intéressant. Donc, on a vraiment des grands classiques, des films québécois qu'il faut voir, qu'on offre maintenant à nos usagers.
Par exemple, donnez-nous envie.
Je dirais qu'il y en a un qui a vraiment été populaire parce qu'on a fait aussi des tests auprès des usagers. C'est Polytechnique. On a des usagers qui nous ont dit j'ai tenté de l'écouter, mais il n'y a presque pas de dialogue.
Ouais,
donc, après 10-15 minutes, il n'y avait aucun intérêt. Donc, enfin, j'ai pu avoir accès à ce classique, ce grand film, et pouvoir en profiter. Aussi, on a Crazy, on a Les Bons Débarras, on a Léolo, Piché entre ciel et terre. Mm-hmm. Donc, on est vraiment à travers les décennies du cinéma québécois, mais aussi plusieurs types de films. Donc, on a Bon Cop, Bad Cop, qui est hyper populaire. Donc, on s'en est pas tenu non plus au drame sérieux. On est allé aussi chercher des films d'été québécois qui sont de plus en plus populaires.
Y a-t-il un Elvis Graton dans votre liste?
Non, on n'a pas Elvis Graton. Par contre, on a Cruising Bar.
Ah ouais, c'est bon. Et comment ça fonctionne alors, ce logiciel? Est-ce que c'est facile à utiliser chez soi?
Mais premièrement, ça prend un ordinateur. Malheureusement, on ne peut pas aller dans le lecteur DVD. Donc, on reçoit le film à la maison. Donc, il y a 3 CD dans le boîtier. Le premier, c'est le logiciel. Donc, on installe le logiciel de lecture DVD sur son ordinateur. Une fois qu'il est installé une fois, plus besoin de le faire. Donc, une fois c'est fait, il est dans l'ordinateur de la personne. Ensuite, il faut télécharger la vidéo description qui est à part. Une fois qu'elle est téléchargée, on peut mettre le DVD du film et là, tout vient ensemble. C'est beau, c'est la création qui est terminée. Et là, on peut écouter le film sur le logiciel avec la vidéo description.
Et vous me parliez peut-être d'amélioration dans le futur de ce système de visionnement?
Bien, nous, on est toujours on s'adapte. C'est certain que des fois, c'est pas facile à la maison pour les gens à écouter tous ces 3 CD-là. Donc, nous, nos techniciens qui tentent d'offrir un support informatique, puis on est en contact encore avec le CRIM. Des fois, il y a des petits problèmes auxquels on n'a pas pensé et là, on tente de régler. Mais nous, c'est certain que notre espoir, c'est qu'éventuellement, on se rende compte à quel point cette technologie-là est excellente. Il faudrait que ça soit offert de façon systématique sur le DVD des films,
oui.
Ce qui n'est pas fait. Nous, en tant que bibliothèque, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire, c'est vraiment les producteurs de films. Donc, on espère que les gens fassent la demande, envoient des courriels aux producteurs de films, au gouvernement même, pour dire que c'est quelque chose qui devrait, autant que les sous-titres, être offert de façon systématique.
Oui, dans le fond, ils pourraient faire affaire avec le CRIM.
Oui,
qui ont un sous-traitant, qui ferait le logiciel.
Et là, je sais que le CRIM est en développement de travailler avec l'ONF.
Ah,
donc,
génial!
Donc, ça serait offert aussi avec des films de l'ONF.
Super! Ben, merci beaucoup, Hélène Gauthier, du SQLA, d'être venue nous parler de l'offre de films en vidéodescription, désormais accessible. Au plaisir!
Merci beaucoup!
Jean Lambert avec nous en studio. Décidément, on a beaucoup de chance aujourd'hui. Luc, pourquoi t'es pas là? Bon, ex-président de la Chambre des notaires du Québec. Bonjour, Monsieur Lambert.
Oui, bonjour.
Alors, vous nous parlez de la réforme du droit de la famille. Vaste sujet. On a 8 minutes. Pourquoi cette réforme est-elle nécessaire?
Alors, ce qui a déclenché, si on peut dire cristallisé, parce que les besoins étaient là, c'est l'arrêt Éric et Lola de la Cour suprême. Mm-hmm. Alors, on se rappelle rapidement que c'est un couple en union de fait. Il y a des enfants nés de cette union, séparation, et madame voulait avoir une partie du patrimoine de monsieur qui était assez imposant. On parle ici d'un milliardaire québécois. Alors, il n'y en a pas beaucoup, on sait à peu près de qui on parle. Et la Cour suprême a décidé à 5 contre 4, donc c'est un jugement assez serré, que le droit québécois ne respectait pas la Charte canadienne des droits et libertés en matière d'égalité. Pourquoi? Parce que les époux mariés sont protégés par la loi, ce qui n'est pas le cas pour les conjoints en union de fait. Mais la juge en chef a lancé le signal pour dire qu'on respecterait la particularité du droit québécois, mais manifestait le désir que le législateur québécois avait toute compétence pour, dans le fond, corriger la situation. C'était pas tout à fait dit comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire.
Mm-hmm.
Alors donc, la réforme, ben, c'est parce que la dernière remonte à 1980. Okay. Et aujourd'hui, ben, il y a de nouveaux besoins. Et quand on considère que plus de 50 % des enfants naissent de couples non mariés, alors on voit qu'il y a toute une dynamique d'interrelation économique entre les deux parents qui ne sont pas tout simplement et qui sont tout simplement ignorés par la loi.
Oui, c'est problématique en effet.
Ben, les procès en matière matrimoniale d'ailleurs occupent la majorité du temps des tribunaux. Alors ça
oui.
aussi, il faut dégonfler cette inflation judiciaire inutile, coûteuse et qui empêche les tribunaux de pouvoir s'occuper de d'autres causes qui nécessitent leur attention.
Et vous êtes vraiment bien placé pour nous parler de cette réforme puisque vous avez fait partie du comité consultatif sur le droit de la famille qui a été créé par le ministre de la Justice en 2013. Et donc, vous avez émis des recommandations ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Alors, la principale, enfin, je devrais dire qu'il y a deux principes principaux. Tout d'abord, qu'on soit marié ou en union de fait, les deux membres du couple, on reconnaît une autonomie absolue et une indépendance absolue sans contracter une espèce de dette envers l'autre, ce qui est un changement assez radical. Toutefois, le second principe, et il est très original, c'est la présence d'enfants qui devient déterminant. L'enfant devient la source de l'interdépendance. Donc, le conjoint qui, par exemple, met sa carrière en veilleuse pour prendre soin des enfants, mérite compensation,
mm-hmm.
et qu'il soit marié ou en union de fait. Donc, la voilà l'égalité.
Ouais.
C'est ce qu'on appelle le régime parental impératif. Avant, on parlait de régime matrimonial. Maintenant, c'est régime parental impératif.
Donc, les gains faits par monsieur seront...
Dans le cas classique où c'est monsieur
ou madame.
Qui est assez bien pourvu financièrement et que madame a mis sa carrière de côté pendant un certain nombre d'années, ou encore l'enfant présente des problèmes de santé sérieux et que madame continue de prendre soin de l'enfant, même
oui.
lorsqu'il est devenu majeur. Séparation, donc monsieur devra compenser madame.
Des années où elle n'a pas travaillé.
Ce qui n'existe pas actuellement.
OK.
Tout ce qui existe actuellement pour un couple en union de fait, c'est la pension alimentaire pour l'enfant,
mm-hmm.
mais pas pour l'autre membre du conjoint qui a subi un préjudice
okay.
financier important à cause de la présence d'enfants.
D'accord.
Maintenant, si on regarde les conjoints de fait, est-ce qu'ils sont soumis au même régime que les époux mariés dans la réforme? La réponse, c'est non. Mais ça se rejoint. Les époux mariés pourront, par contrat de mariage, par exemple, se soustraire aux obligations que le Code civil prévoit. D'ailleurs, elles seront moins lourdes. Alors que les conjoints de fait ne seront tenus à aucune obligation, mais pourront, par contrat d'union de fait, faire un genre d'opting-in et de choisir ce qu'ils veulent mettre en commun et ainsi se créer des obligations, mais pas sur un horizon universel comme on a actuellement. Et évidemment aussi, on a abordé les mères porteuses, la procréation assistée, l'adoption, la filiation. On a changé beaucoup de choses, par exemple, pour reconnaître à un conjoint de fait qui n'est pas le parent de l'enfant, mais que l'enfant a grandi avec lui, oui, des droits.
Okay.
Ce qui n'est pas reconnu actuellement.
Wow, oui.
Alors ça aussi, c'est un autre des éléments de la réforme. Écoutez, on parle d'une brique de 600 oui. pages. C'était un travail de 2 ans et demi à tous les 2 vendredis. Le
pour
groupe
vous.
Se réunissait. Ça a été un travail colossal.
Intéressant, mais c'est passionnant. Et il y avait beaucoup de dépoussiérage à faire.
Beaucoup.
Et là, dites-moi.
Alors là, ce qu'on s'attendait, le rapport a été déposé il y a 3 ans... à la ministre de la Justice, et il faut bien le dire, il n'y a rien qui s'est passé.
Ah non!
Alors, malgré de nombreux rappels, de nombreux cas qui ont été traités dans les médias où on a dit, ben, si la réforme était là, ce cas-là ne serait pas présenté. Et c'est ce qui explique que la Chambre des notaires mène actuellement une consultation citoyenne à la grandeur du Québec. Alors, le 27, par exemple, c'est à Montréal. En après-midi, on entendra les organismes et en soirée, à compter de 18h30 jusqu'à 21h, les particuliers. Il faudra avoir déposé un petit mémoire toutefois.
Okay.
Et la date, c'est aujourd'hui ou demain.
Et il faut s'inscrire, donc c'est ça, pour pouvoir participer, mais on peut assister sans
oui,
s'inscrire?
Oui, okay. Oui, ça va avoir lieu au Westin, sur la rue Saint-Antoine.
Et c'est quoi le but de cette consultation?
Bien, ça fait, à la Chambre, on fait le travail que le ministère n'a pas fait. C'est-à-dire qu'on va au-devant des gens et on les consulte. On dit, voici le rapport, voici ce qu'il dit, qu'avez-vous à dire?
Ah oui.
Parce que c'est pas certain que tout ce qui est dans le rapport va nécessairement recevoir l'adhésion
ouais.
de tout le monde.
Donc là, on est loin d'une réforme encore.
Oui, mais par contre, il y a des élections qui s'en viennent
oui.
à l'automne et le but évident, c'est de mettre le sujet, du moins en première ligne, des préoccupations. On veut que le sujet soit discuté, on veut que les politiciens s'engagent.
Oui, ben c'est vraiment intéressant, puis je comprends. Vraiment, il y a de quoi, là, il faut s'engager. Et puis pour les couples en union libre, le testament est toujours important, n'est-ce pas? Hein?
Oui, malgré qu'on va reconnaître certains droits successoraux aux conjoints de fait, par exemple, le droit à la résidence familiale.
D'accord.
Ce qu'on n'a pas actuellement.
Oui, intéressant. Ben, merci beaucoup, M. Jean Lambert. Et peut-être à cet été?
Ben oui.
Oui,
au revoir. Avec plaisir.
Écoutez Accès libre. Pendant quelques heures, je conduis.
sang. Toutes les fourmis ont tes orteils. Pour n'importe où je m'en fous.
Semaine, est-ce que l'innovation est la solution contre les barrières dues aux situations de handicap? Qui ou quel groupe sera porteur de changement aujourd'hui et demain?
C'était Daniel Bélanger et j'ai du beau monde avec moi pour parler d'un projet assez génial que l'Université de Concordia a mis en place. Ça s'appelle Montréal sans obstacles et c'est une dizaine d'équipes qui ont travaillé pour rendre Montréal sans obstacles. Donc dans différents thème. Alors j'ai au téléphone Marie-Lou Daudier, également coordinatrice du projet du Bureau de l'engagement communautaire à Concordia. Bonjour Marie-Lou.
Bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir tout le beau monde.
Oui, je vais les nommer après.
Merci.
Ben non, je vais les nommer maintenant d'abord. Marc-André Delorme, coordonnateur du projet à la Maison de l'innovation sociale, qui est partenaire de Montréal sans obstacles. Bonjour.
Bonjour.
Zara Peel, membre de l'équipe Visiter les petits restaurants et les cafés, vient du milieu professionnel à titre de service designer. Vous êtes entrepreneuse, bonjour.
Bonjour.
Et puis Marvane Lacroix-Bergeron, qui est membre de l'équipe Communiquer au travail, qui est interprète LSQ et qui participe à titre de citoyen.
Bonjour. Bonjour.
Alors voilà, Marie-Lou, maintenant je reviens vers vous. Expliquez-nous ce qu'est Montréal sans obstacles. En quelques mots.
Alors, Montréal sans obstacles, c'est un défi de conception non compétitif qui vise à rendre la ville de Montréal plus inclusive et accessible pour les personnes qui vivent avec un handicap physique. Alors, comment on a fait ça? C'est dans un processus de design thinking. Donc, en quatre phases, on a développé des projets. Donc, la première phase, c'était de former les équipes. Donc, on a rassemblé des gens avec différents profils, que ce soit des étudiants, des personnes en situation de handicap, des ingénieurs, des activistes. On a tout regroupé ce monde-là pour former des équipes multidisciplinaires dans un premier temps. On les a renseignés sur c'est quoi le design thinking, c'est quoi l'accessibilité. Par la suite, on a eu une phase de recherche où on a invité les équipes à aller dans la communauté et à poser des questions. Ensuite de ça, il y a une troisième phase où il y a eu du design et du prototypage. Et finalement, la quatrième phase, c'était la présentation des idées. Donc, en fait, c'est ça Montréal sans obstacle.
C'est comme un Fab Lab, en fait, réunissant plein de gens pour une même cause, avec différentes compétences. Et vous avez plusieurs partenaires. Est-ce que vous pouvez nous les citer?
Oui, donc on a des beaux partenaires qui ont travaillé vraiment fort avec nous pour rendre le projet possible. Donc on a bien sûr la Maison de l'innovation sociale qui qui a été là non seulement dans le comité de pilotage, mais aussi nous a aidé à animer certains ateliers. Donc, par exemple, la Maison de l'innovation sociale a aidé à savoir comment présenter un argumentaire. Donc, quand c'était rendu à la présentation, ils ont formé les participants pour présenter leur pitch. Il y a le Critical Disability Studies Working Groups de l'Université Concordia qui s'occupe plus de la recherche sur les différents enjeux des personnes en situation de handicap. Donc, ça nous a permis d'aller dans le côté un petit peu plus critique puis s'assurer qu'on était toujours assez sensible à tout ce qui était accessibilité. Il y a Vie Autonome Montréal qui est un organisme très reconnu.
Oui, qu'on connaît bien ici.
Exactement, exactement. Donc, eux, ils ont contribué ça, sur notre comité de pilotage. Et aussi, il y avait la partie participation dans Montréal sans obstacle. Donc, ils nous donnaient un petit peu les deux points de vue. Et il y a District 3, bien sûr, le hub d'innovation de l'Université Concordia qui était sur le comité de pilotage, qui a designé certaines séances dans la programmation de Montréal sans obstacles.
D'accord. Oui. Ben, c'est vraiment intéressant. Merci Marie-Lou de nous avoir présenté le projet. Je me tourne maintenant vers les invités en studio. Marc-André, la Maison de l'innovation sociale, c'est un projet fait pour vous sur mesure. Ça, votre rôle, ça consiste en quoi?
Oui, en fait, la Maison de l'innovation sociale existe depuis un peu plus d'un an à Montréal. C'est un organisme à but non lucratif. En fait, qui a... c'est bon? Ça va? Qui a la prétention de vouloir imaginer aider les citoyens, les individus, les organisations à imaginer des solutions en fait aux grands défis, enjeux sociaux et environnementaux qui nous attendent au cours des prochaines années, décennies. Donc l'idée c'est de favoriser l'émergence d'innovation sociale, un peu comme le projet dans lequel on se trouve aujourd'hui avec Enable Montreal, mais tant d'autres. Ensuite de accompagner les porteurs de projets. Sur le territoire québécois, on a une mission pan-québécoise. Et finalement, aiguiller les acteurs vers les bonnes ressources dans l'écosystème d'innovation sociale à Montréal et au Québec.
Et l'accessibilité universelle, est-ce que c'est un thème qui revient beaucoup à l'AMI?
L'accessibilité universelle fait partie des grandes thématiques avec lesquelles on travaille. En innovation urbaine, on parle de participation citoyenne, d'infrastructure. Donc, ça touche ces deux grandes thématiques-là. En plus de l'innovation au niveau des finances sociales et de la gouvernance.
Intéressant. Bon, ben, il faudra qu'on revienne sur l'AMI. Là, on ne vous a pas invité souvent, mais c'est bien intéressant. Je me tourne maintenant vers les membres des équipes qui sont avec nous. Zara et Marvin, comment vous avez entendu parler de Montréal sans obstacle? Zara?
J'ai une amie qui travaille à Concordia, alors elle m'a passé ces informations-là et c'était vraiment en lien avec le travail que j'ai fait comme designer et entrepreneur. J'ai une petite compagnie qui s'appelle Tonomy Shop, c'est une compagnie en ligne, donc tonomyshop.com, et j'ai fait des accessoires pour les marchettes, les déambulateurs et pour les gens en perte d'autonomie en général. Et c'est des accessoires qui donne un peu de la dignité à les gens. Mm-hmm. C'est beau. Et je suis très intéressée dans l'urbanisme et comment faire Montréal plus accessible en général. Alors, c'était vraiment en ligne avec ce que j'ai fait et j'étais très attirée par le mandat de faire les restaurants et les cafés à Montréal plus accessibles.
Intéressant. Et vous, Marvin?
Oui, donc moi, en fait, c'est de bouche à oreille par un de mes amis qui s'appelle Evian Brière, un autre interprète en langue des signes québécoise aussi. Et puis nous, on était déjà passé en fait à une émission à Ami Télé pour expliquer un peu la situation au niveau des sourds qui sont en situation d'hospitalisation en urgence, comment ils font pour communiquer, est-ce qu'on le sait, s'ils ont des allergies ou pas. Des fois, par exemple, il y a des bracelets, mais s'ils en ont pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a essayé justement de sensibiliser les personnes parce qu'on a tous les deux vécu des choses avec nos parents, moi.
Oui, vos parents sont sourds, tous les deux.
Oui, exactement. Et en plus de ça, ma mère est décédée il y a 2 ans et demi. Et durant tout le processus d'hospitalisation, il fallait que je sois là comme interprète parce qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup d'interprètes. Ce qui m'a mené justement à lui qui m'a proposé, Mervan, ça tente de faire un projet. J'ai entendu parler de ça. Est-ce que tu veux essayer? Tu veux t'impliquer? J'ai dit absolument, c'est ça que je veux faire. Donc, j'ai trouvé une opportunité là-dedans de vraiment aider à mon tour.
Ouais. Donc, tous les deux, vous mettez vraiment au service vos compétences et vos valeurs pour Montréal sans obstacle. Vous avez eu une petite contribution, je crois. Il y a eu un montant d'argent qui a été divisé, une subvention qui a été divisée dans les équipes, mais c'est quand même pas grand-chose pour tout l'investissement que vous avez donné. On peut se prendre une petite pause musicale et on revient tout de suite après pour parler de vos solutions.
Car qui soupire un détonateur livre l'amour à toute chaleur qui fournit la poudre et qui l'allumeur. Personne ne sait ni comment, ni où, ni quand nos lèvres touchent à la bouche du volcan. Viens-t'en, va-t'en, viens-t'en, passer la lune, y a le néant. Viens-t'en, va-t'en, viens-t'en, derrière la dune, c'est l'océan. Est-ce une chambre, est-ce une cage? Enjôle-moi, belle jolière. Suis-je en avance pour le carnage? La lune est haute, elle est pleine, elle est sincère. Mes amours, mes samouraïs, quoi faire? Viens-t'en, va-t'en, viens-t'en, mon cœur de fer est ton aimant. Viens-t'en, va-t'en, dévore-moi doucement. Suis-je la flamme de ta bombe? Est-ce que je vole ou si je tombe? Est-ce le serment d'une seconde? Préfères-tu que je t'aime ou que je t'adore? Pour la nuit ou pour la vie, trop tard. Viens-t'en, 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 je te crois même quand tu mens. J't'haïs, j't'haïs, j't'haïs.
C'était l'Enjolière des Sœurs Boulay. Alors maintenant, on parle solutions concrètes. Soyons concrets. Donc, Mervan Lacroix-Bergeron, vous étiez membre de l'équipe Communiquer au travail. Dans votre équipe, il y avait des personnes en situation de handicap, des professionnels, des personnes comme vous, professionnels en LSQ par exemple, qui apportaient leur expertise. Quel était votre mandat?
En fait, notre mandat premier, c'était tout simplement d'aider les personnes à avoir une activité beaucoup plus grande au marché du travail. Mais ensuite de ça, on s'est vraiment plus concentré sur la situation sourde parce qu'on avait déjà un projet qui avait été un peu mis de côté avant et ensuite de ça, ça rentre quand même dans le mandat.
D'accord. Et quelle solution vous proposez?
Donc en fait, on a essayé de créer une application. En fait, on a créé une application qui permet en fait de servir d'outils de communication entre un employeur ou un employeur, une personne entendante ou à une personne sourde, parce qu'on a créé un genre de dictionnaire, mais très accessible, qui est très très facile aussi à utiliser, parce qu'il y a plusieurs catégories, et puis dans les catégories, on retrouve par exemple les mots de vocabulaire les plus souvent utilisés.
En LSQ,
exactement.
Intéressant. Donc, ça permet finalement, c'est comme un petit 101 sur l'ESQ pour les employés et les patrons.
Exactement. Et on a vraiment voulu que ce soit accessible et facile d'utilisation parce qu'on ne voulait pas sortir un dictionnaire. C'est pas pratique du tout, en fait, en situation réelle. Ce qui nous permet vraiment de produire quelque chose qui pourrait être utilisable ou pas, vraiment comme, je disais, un outil.
Mm-hmm. Et c'est un dictionnaire électronique, en fait, c'est ça?
Exactement.
Ouais. OK, donc plus malléable et facile d'utilisation.
Donc oui, c'est ça. Là, c'est une application sur nos téléphones, donc on sait qu'on peut l'avoir partout parce qu'on a tous nos téléphones sur nous. Ouais. De nos jours. Et puis, c'est ce qu'on voulait viser aussi, l'accessibilité dans le sens où tout le monde peut l'avoir n'importe où, n'importe quand.
D'accord. Ça nécessite quand même un petit travail des employeurs. Là, il faut qu'ils aillent regarder et puis qu'ils apprennent les quelques mots parce que c'est du vocabulaire d'entreprise, j'imagine.
Exactement. Ouais. Mais ce qui est important surtout, c'est de penser au fait que ça ouvre les portes. On est capable d'arriver et de montrer qu'il y a des outils qui sont disponibles.
C'est vrai.
C'est ça le plus important.
Les employeurs ne sont pas laissés à eux-mêmes en se disant « mince, comment je vais faire ?»
C'est surtout qu'il y a quand même un manque d'information à ce niveau-là parce que généralement, ils se disent « ok, il faut que je paye un interprète ». Mais est-ce qu'il faut que je paye un interprète réellement à chaque fois que la personne sourde arrive dans le milieu de travail, tout le temps ? Non. On s'entend pour dire qu'en fait... Pour la formation, tout ce qui est la formation, on peut se permettre de prendre un interprète, OK. Mm-hmm. Pour l'entrevue, par contre, ça peut être comme vous voulez. Mais ensuite de ça, en plus d'avoir un outil, c'est beaucoup plus facile de communiquer, que ce soit dans l'environnement de travail, avec l'équipe au complet, et de patron à l'employé.
Mm-hmm. Et est-ce qu'une personne sourde qui va faire un entretien d'embauche vient avec son interprète ou attend que l'employeur engage un interprète? C'est quoi la...
Et en fait, c'est des ressources gouvernementales qui sont données à toutes les personnes qui en veulent embaucher un interprète pour un service d'interprétation. Et ça, on ne le sait pas trop. Mm-hmm. Mais donc, les employeurs, généralement, c'est eux les patrons vont appeler pour avoir un service d'interprétation. Ils vont quand même payer, mais ils vont quand même se faire rembourser.
D'accord, intéressant, effectivement. Zara, vous étiez sur l'équipe visiter les petits restaurants et cafés. Votre mandat, c'était comment améliorer l'accès aux petits restaurants et cafés à Montréal pour les personnes vivant avec un handicap moteur. Je le rappelle juste comme ça, c'est tous les handicaps qui étaient pris en compte, hein, les handicaps visuels, physiques, auditifs, même des handicaps, des limitations intellectuelles. Donc ça, c'est important de le dire, c'était universel. Mmh. Zara, quelle était votre solution?
Alors, finalement, nous, on a décidé de faire un design d'un service. Et on a trouvé que notre équipe, au tout début, quand on était formés, les premières comme 10 minutes qu'on était tous ensemble, notre mentor, Diane Thau, de l'architecture sans frontières, elle a nous posé une question super intéressante. Elle a nous dit... est-ce qu'on va faire une solution qui est la solution idéale ou est-ce qu'on travaille sur une solution qui peut être faite assez vite? Et c'était vraiment unanime. On a tous décidé que la meilleure chose, c'était de faire quelque chose qu'on peut mettre à pied aussitôt que possible. Alors, quand on a fait notre brainstorming sur ça pourrait être quoi, quelle approche qu'on va faire, on a trouvé qu'on peut... adresser beaucoup de différentes questions et enjeux dans cette mandat si on fait un design d'un service au lieu d'une solution physique.
Mm-hmm. Et donc,
cette service, c'est en forme d'un club de dîner ou souper. Mm-hmm. Alors, ça veut dire qu'il y a une plateforme en ligne, les gens peuvent s'inscrire. Vous pouvez avoir une disabilité, mais peut-être...
Un handicap,
mais vous pouvez être un ami de quelqu'un aussi. C'est pas important. Tout le monde est bienvenu, okay. En effet. Alors, cette club visite un nouveau restaurant à chaque semaine.
D'accord.
Et avec ce service vient un hôte d'accessibilité qui host en anglais, quelqu'un qui...
Un hôte.
Alors, cet hôte arrive à le restaurant, mettons, une heure avant que le souper commence. Et il fait une formation avec le personnel du restaurant et il parle de c'est quoi les particularités ou les choses à penser quand on accueille les gens avec disabilité, les gens avec handicap.
Ouais.
Puis là, quand les gens arrivent en paratransit, mettons s'ils sont en chaise roulante,
ouais.
il ou elle va mettre une rampe.
Ouais.
Parce que souvent, on voit que dans nos rues héritage, comme le Saint-Laurent ou l'avenue Mont-Royal, il y a souvent
des marches.
Des marches, qui veut dire que si vous êtes en chaise roulante, vous ne pouvez pas entrer. Alors, il installe une rampe, il aide les gens à monter, il assure que la qualité de service est bonne durant le souper, il va même assurer une toilette accessible, aider avec ça, cet élément aussi.
Donc, l'hôte reste pendant toute la durée du repas?
Oui, c'est ça, et aide à sortir aussi. Et on laisse une rampe à portable avec le restaurant aussi. Alors, tout le monde qui est venu sait qu'il peut retourner là et ils vont être bien accueillis.
Okay. Et ça, est-ce que vous vous assurez d'abord de la collaboration du restaurant ou c'est au hasard?
C'est sûr qu'on va nous introduire avant, alors absolument besoin de la collaboration.
Parce que si vous arrivez un samedi soir en plein rush, là, je ne suis pas sûre qu'ils vous reçoivent.
Non, c'est partie de notre travail à faire, c'est de commencer à collectionner tous nos collaborateurs de restaurants.
Et là, vous en avez combien?
On avait une pour commencer, alors oui, c'est ça.
C'était qui?
Le Robin des Bois.
Ah, génial! Et donc, cet hôte, c'est qui en fait? Est-ce que c'est quelqu'un qui est payé ou bénévole?
C'est toutes les choses qu'il faut résoudre. C'est certain qu'au début, on peut fonctionner avec des bénévoles, mais ça, si on, dépendant le financement que notre projet reçoit, c'est certain que si c'est quelqu'un qui a quand même besoin d'une éducation et une spécialité, alors ça serait excellent de créer des jobs aussi à la même fois.
Mm-hmm. Ou ça pourrait être des amis ou des personnes qui sont capables d'expliquer leur handicap et de sensibiliser.
Absolument.
Je pense à Kevin Breton, oui. Il serait tout à fait capable d'être hôte en même temps. Bon, en tout cas, peut-être que je lui en mets beaucoup là, mais, mais vraiment, il est très très fort. Sinon, Marc-André, là, vous allez, vous, à l'AMI, sélectionner des projets pour donc les intégrer dans votre incubateur civique. Hein, c'est un des programmes que vous proposez. Où vous en êtes dans la sélection?
En fait, dans un premier temps, le partenariat se poursuit avec l'Université Concordia, bien sûr. On va accueillir les candidatures. En fait, c'est plutôt les équipes qui doivent décider si elles poursuivent ou non dans l'incubateur civique. Donc, les caractéristiques...
Qu'est-ce que ça implique pour elles?
Bien, en fait, c'est ça. Il faut voir dans un premier temps si elles sont prêtes à poursuivre l'engagement, en fait, sur une assez longue durée, 3 mois hein, encore. Un autre 3 mois de travail soit intensif. Est-ce que l'équipe est suffisante et encore multidisciplinaire et capable de poursuivre dans l'incubateur? Donc, l'état de l'équipe dans laquelle...
s'ils ont perdu des joueurs.
Ou pas, et s'ils vont aller rapatrier ou aller chercher d'autres joueurs. Ensuite de ça, le potentiel d'impact, bien sûr, qui est important à tenir en compte. Donc, ce sont tous des caractéristiques ou des critères qui vont être pris en considération. Et donc, les équipes, on espère que le plus grand nombre d'équipes vont déposer leur candidature. On devrait, en fait, là, au courant du fin juin, début juillet, recevoir les candidatures pour un début dans l'incubateur au mois d'août.
Mm-hmm.
Et donc, l'incubateur, en gros, là, ce sont 4 grandes étapes qui vont permettre, en fait, de pousser plus loin, parce qu'on s'entend qu'il y a déjà beaucoup de travail qui a été fait au sein du projet d'Enable. Mais dans un premier temps, l'incubateur civique propose aux innovateurs, aux entrepreneurs en devenir un module sur le leadership résilient, parce qu'on sait que ça demande énormément d'énergie, d'investissement, que de se lancer en innovation et en entrepreneuriat. Donc, on a décidé de mettre en place un module qui va permettre aux gens de bien se préparer psychologiquement et poursuivre et terminer et accomplir le projet au complet.
Comme un marathon, mais rapide.
Exactement. Mais aussi ce qui les attend en tant qu'entrepreneurs par la suite, une fois la forme juridique et l'entreprise ou le projet en cours. Donc,
vous les suivez après aussi.
Oui, tout à fait. Donc, le deuxième, c'est une revue, en fait, du volet de la stratégie d'impact. On a déjà abordé dans le cas d'Enable ce volet-là. Mais c'est de peaufiner la stratégie d'impact. Qu'est-ce qu'on veut avoir comme impact social ou environnemental à l'intérieur de l'innovation? On va vers un prototypage avancé dans le cas de Enable, donc peaufiner, affiner ce qui a été déjà fait. Et pour terminer sur une stratégie de déploiement, comment on va concrétiser l'innovation en forme juridique.
Génial. Allez-vous poser votre candidature?
Absolument.
Oui, absolument.
Yeah!
Oui.
Bon, mais on en veut d'autres, des projets comme ça, l'Université de Montréal, McGill, réveillez-vous. En tout cas, bravo à Concordia. C'était Marie-Lou Daudier au téléphone, Marc-André Delorme de la Maison de l'Innovation Sociale, Zara Pil, qui est service designer et qui a participé au projet, comme Mervan Lacroix-Bergeron, interprète et l'ESCU. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et c'est sûr qu'on va vous reparler, c'est sûr.
Merci à vous.
Parfait, merci beaucoup.
Vous écoutez Accès Libre.
Question de la semaine, est-ce que l'innovation est la solution contre les barrières dues aux situations de handicap? Qui ou quel groupe sera porteur de changement aujourd'hui et demain?
Je marche le long du chemin, je me traîne et traîne mon chagrin sous un ciel de fer. Ah.
jusqu'au début du monde. Et si un jour tout s'adoucit autour de nous, je t'aimerai, je t'aimerai, je t'aimerai plus fort que tout. Même dans un temps, faut mettre de l'Englishman. Oui, un drôle de temps, seulement des bras ou des fous. Il marcherait seul.
Et je reçois maintenant José Ronchon, qui est consultante pour formation Altergo. Bonjour José.
Bonjour.
Alors nous parlons avec vous des formations que vous donnez pour les animateurs de camps, des camps de jour cet été, qui reçoivent des enfants à besoins particuliers. Alors d'abord, quelle est l'expertise de Formation Altergo?
Oui, et bien dans le fond, Formation Altergo, c'est vraiment un service de sensibilisation et de formation à l'accessibilité universelle. Donc, on offre effectivement notamment des formations qui sont divisées là, en trois grandes familles. Et l'une de ces catégories-là, c'est l'accompagnement. Donc, à ce niveau-là, on travaille beaucoup, comme vous l'avez dit, dans les camps de jour et dans les organisations de loisirs.
Et alors, en quoi consiste, quelles sont les formations que vous proposez?
Au niveau des camps de jour, en accompagnement, c'est principalement deux formations qu'on offre. Donc, la première étant l'accompagnement des personnes ayant une limitation fonctionnelle. Et la deuxième est un peu plus spécifique. On parle spécifiquement de la déficience intellectuelle, du trouble du spectre de l'autisme et du trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, on s'est rendu compte à travers les années qu'au niveau des camps de jour, le besoin d'accompagnement, le besoin d'outils des animateurs, des accompagnateurs était beaucoup là auprès de cette clientèle-là. Donc, c'est vraiment notre formation là, qui est la plus populaire ces jours-ci. À l'approche là, du début de la saison des camps de jour.
Et oui, parce qu'en fait, ces formations, ça s'adresse à des animateurs de camps de jour qui ne sont pas forcément spécialisés pour des enfants à besoins particuliers.
Effectivement. Donc, souvent, c'est des jeunes 16-17 ans qui n'ont pas nécessairement de formation dans le domaine. Donc, des gens qui débutent, des gens qui n'ont pas encore nécessairement là, eu de contact avec la limitation fonctionnelle. Donc, on est appelé là, vraiment à les former à ce niveau-là. Souvent, ils ont certaines craintes, ils ont un certain malaise. Donc, la formation là, permet aussi de briser ça avant le début de la saison des camps de jour. Par contre, il faut souligner qu'on a aussi la chance là, de rencontrer des animateurs, des accompagnateurs d'expérience. Donc, des gens là, qu'on revoit année après année dans nos formations et qui sont toujours heureux là, d'avoir un petit rafraîchissement de leurs connaissances, mais aussi de partager leurs connaissances et leurs trucs à leurs collègues qui débutent dans le milieu.
Mm-hmm. Et alors, comment ça se déroule, cette formation la plus populaire?
Donc, cette formation-là, on la veut vraiment participer. Donc, d'une part, nous, les formateurs de formation Altergo, arrivons. Nous avons tous et toutes nous-mêmes des limitations fonctionnelles. Donc, à la base, là, on est un petit peu un symbole de sensibilisation et ça permet de briser leurs barrières et leurs malaises. Et ensuite, on leur donne là, vraiment une petite portion théorique là, au niveau de qu'est-ce que la déficience intellectuelle, le trouble du spectre de l'autisme et le déficit de l'attention. Mais on veut vraiment surtout leur donner des outils.
Oui.
Donc, la formation n'est pas axée sur le diagnostic, mais surtout sur le développement là, de ressources.
Mm-hmm.
Et on essaie là, d'y aller vraiment au niveau participatif. Donc, on les fait travailler par petits groupes, on leur donne des mises en situation, on les fait vraiment réfléchir sur comment on accompagne et on accueille un jeune qui a une limitation fonctionnelle avant le camp de jour, mais surtout pendant, évidemment, et comment aussi ils doivent communiquer avec le parent, comment ils peuvent communiquer aussi avec leurs collègues, avec les intervenants extérieurs, de façon à ce que l'enfant qui a une limitation fonctionnelle soit vraiment inclus au sein du camp de jour puis devienne vraiment là, un participant à part entière. Donc, en travaillant en atelier, en mise en situation, ça leur permet vraiment de réfléchir par eux-mêmes puis de bâtir eux-mêmes des outils qui vont leur servir là, tout au long de l'été.
Ça permet aussi de dédramatiser, d'y aller avec sang-froid, si par exemple un enfant se cogne contre un mur.
Exactement. Donc déjà d'une part, ce qu'on leur mentionne beaucoup dans les outils qu'on leur donne, dans les trucs qu'on leur donne, c'est que c'est des outils qui vont être bons pour tous les enfants qui ont devant eux durant l'été. Par contre, pour les enfants qui ont une limitation fonctionnelle, ben ça va être essentiel et primordial là, à leur inclusion. Donc, en sachant tout ça, ça leur permet de voir leur travail autrement, puis de voir aussi l'importance de ce travail-là qu'ils font, donc l'importance dans la vie des jeunes. Puis, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, ben au moment où une situation problématique surviendrait, ils ont les outils pour pouvoir y répondre. Donc, comme vous l'avez dit, là, ça permet de réagir avec plus de calme.
Mm-hmm. Et comment vous évaluez l'impact de ces formations auprès des participants, donc des encadrants, puis des personnes, des enfants, en fait, qui ont une limitation?
Au niveau des participants, c'est sûr qu'écoutez-moi, ça fait 7 ans là, qu'à chaque année, j'ai la chance d'aller dans les camps de jour rencontrer les, les accompagnants. Donc, d'année en année, on les revoit, puis ils nous le disent que ça a changé là, leur perception, ça leur a donné des outils, mais surtout, ça leur a permis d'avoir du plaisir dans ce qu'ils font, puis de voir les progrès de leurs jeunes.
Oui, c'est gratifiant aussi.
Tout à fait. Ça leur permet de se valoriser là-dedans. Puis année après année, ces accompagnants-là, qui reçoivent la formation, ils reviennent, même s'ils l'ont suivi l'année précédente puis l'automne d'avant, parce que justement, autant là, le rafraîchissement de connaissances que ça leur donne que la valorisation, ben c'est quelque chose qu'ils apprécient beaucoup. Au niveau des enfants qui ont une limitation fonctionnelle, écoutez, c'est sûr que les histoires de succès là, qu'on entend jour après jour, ça fait chaud au cœur. Donc, souvent des enfants qui, dans un milieu scolaire, vont peut-être être plus mis en situation d'échec, en situation difficile. Mais là, au camp de jour, l'été, tout est vraiment axé sur le plaisir puis leur réussite, puis d'élargir aussi un petit peu leur zone de confort. Hein. Donc, par exemple, on entend parler de jeunes qui, au début de l'été, veulent rien savoir d'aller à la piscine. Puis, ben à la fin de l'été, ils réussissent à être autour de la piscine avec les amis, à mettre les pieds dans l'eau. Puis ça a l'air, tu sais, banal, mais pour ces jeunes-là, tout au long de l'été, grâce aux équipes d'accompagnateurs, sa zone de confort a été élargie. Donc, c'est vraiment important.
Et c'est les camps de jour qui demandent cette formation ou c'est l'animateur?
Ce sont les camps de jour. Donc, nous, en fait, avec Altargon, on travaille avec les arrondissements. Et les arrondissements reçoivent une subvention qui s'appelle le PALIM, qui les aide, en fait, à débourser les frais pour avoir des accompagnateurs pour les enfants qui ont des limitations fonctionnelles. Et la formation fait partie, là, aussi, de l'accompagnement qu'on leur donne à ce niveau-là. Donc, c'est pas seulement des sous, mais une formation pour les animateurs et les accompagnateurs.
Et ça marche aussi pour le privé?
Oui, le privé peut aussi faire une demande à ce niveau-là. Au niveau des frais, c'est sûr que ça varie un petit peu, mais on forme aussi dans les camps de jour privés et on forme aussi dans les camps de jour à l'extérieur de Montréal.
Formidable! Merci José Rochon, je vous souhaite un très bon été et puis on retrouve les informations de formation Altergo sur Internet.
Merci beaucoup!
Au revoir! Sur le site de Canal M.
I'm not.
C'était Adèle avec Water Under the Bridge. Et voilà le moment de vous faire découvrir ou redécouvrir un essai disponible en version audio, édité par Vues et Voix. Et aujourd'hui, on a choisi un peu d'amour. Un peu d'amour. Nous vous invitons à écouter deux extraits du tendre et amusant Ensemble pour toujours de Denis Monnette, publié en 2015 chez Libre Expression. On écoute tout de suite la quatrième de couverture.
Monsieur Monnette, que faisiez-vous avant d'être journaliste et romancier? Êtes-vous marié? Avez-vous des enfants? On peut savoir votre âge. Vous êtes allé à Hollywood, n'est-ce pas? Tant de questions et si peu de réponses. J'ai alors réalisé que les lecteurs désiraient tout connaître de moi. On a bien sûr appris ce qu'était mon enfance avec les parapluies du diable. Mais l'homme après l'enfant, le jeune marié, on connaît à peine le prénom de ma femme. Invité à écrire mon autobiographie, j'ai longuement hésité avant d'accepter. Je croyais n'avoir rien à dire. Mais après mûre réflexion, à l'âge des cheveux blancs, je me suis remémoré le long parcours derrière moi. Un sentier semé de joie et d'embûches, des années à sourire, d'autres à pleurer. J'ai donc, tout doucement, repris ma plume et mis sur papier mon cheminement, quitte à le léguer à mes enfants, pour ensuite avoir envie de vous le partager. Ma carrière journalistique, ici comme à Hollywood, la naissance du romancier, mes enfants, mes petits-enfants et, surtout, Micheline. Celle avec qui j'ai traversé les hauts et les bas de ma vie et que le ciel m'a hélas ravie. Celle dont je pleure encore la lente agonie de son intraitable maladie. C'est tout cela et beaucoup plus encore que mon cœur de septuagénaire vous offre bien humblement dans ces pavés de tant d'années où, bien souvent, l'émotion étranglait mes sentiments. Ensemble pour toujours, c'est elle et moi, c'est ma famille, c'est notre histoire, et ça se lit comme un roman.
Êtes-vous inscrit au service du livre adapté du Québec? Parce que si vous ne l'êtes pas, dépêchez-vous. Si vous présentez une déficience visuelle ou une limitation qui vous empêche de lire un livre, vous avez accès à toute cette collection donc de BANQ. On écoute la suite.
Viens, Denis, sois pas gêné. Je vais te présenter ma sœur Gisèle. Je ne lui dirai pas que c'est pour que tu sortes avec elle, juste faire sa connaissance, parce que tu es mon ami. J'avais finalement accepté de suivre Gilles, qui était beaucoup plus le copain de mon frère André que le mien, jusqu'à la rue Saint-Réal, où il habitait le second étage d'un duplex. Il était monté pour redescendre avec Gisèle, pendant que j'attendais sur le trottoir, et il me la présenta tout bonnement. Jolie fille, cheveux châtains tirant sur le blond, mince et élancée, je remarquai d'un seul coup d'œil qu'elle était plus grande que moi, ce qui me fit reculer sur le champ. Sans le lui dire, évidemment, elle était tout de même charmante. Nous avions échangé un peu, puis elle était remontée chez elle en me laissant avec Gilles, dit Tipat, qui me demanda « Ben voyons, elle me dépasse de 2 pouces. Elle est trop grande pour moi. »« Oui, mais t'as pas fini de grandir. T'as juste 15 ans. »« Elle non plus. Elle n'en a que 14. Puis, chez nous, on n'est pas grand dans la famille. Tu le sais, ma mère ne mesure pas 5 pieds, puis mon père n'est pas un géant avec ses 5 pieds et 7 avec ses souliers. » « Non, elle n'est pas pour moi, ta petite sœur. Bien fine, bien belle, mais présente-la à quelqu'un d'autre. » Au même moment, alors qu'il insistait encore sur la possibilité d'une fréquentation avec Gisèle, une jolie brunette, plus petite celle-là, passa devant nous, sans nous regarder, et monta directement chez elle. Ébahi, je demandai à Gilles, « C'est qui celle-là? » « Micheline, la plus âgée des filles. » « Mais pense-y pas. Elle a 16 ans, elle est trop vieille pour toi. »« Tu crois? Elle ne les fait pas. Et elle est plus petite que l'autre. Elle est de ma grandeur. Elle est cute. Elle semble gênée. »« Ouais, pas grande. Elle retient du père. Mais à 16 ans, on cherche un chum plus vieux. Pas un petit jeune de 15 ans. Elle va avoir 17 ans en septembre. Pense-y pas que je te dis. Elle voudra rien savoir de toi et il y a plein de gars qui lui font de l'œil. » Constatant soudain que je n'étais qu'un enfant comparé à cette jeune fille qui, malgré son air juvénile, s'en allait vers sa vie de femme, je revins chez moi avec Tipat, qui repartit avec mon frère, pendant que je descendais dans le sous-sol aménagé de notre maison pour écouter les derniers disques de K-Star et de Frankie Lane. En tentant d'oublier Gisèle et Micheline, sachant que lorsque le dimanche viendrait, j'irais au vu dans le bas de la ville, puis au restaurant manger une coconut cream pie avec Louison, ma copine du moment que j'aimais plus ou moins. Nous étions en 1952. Au mois de juillet, si ma mémoire est fidèle, et tout en écoutant les derniers succès du Hit Parade sur mon pick-up portatif, je revoyais le visage de Micheline que j'avais pourtant à peine entrevu. Et je me disais, qu'importe si elle va avoir 17 ans en septembre, j'en aurai 16 en décembre. Ça fait juste 1 an et 3 mois de différence quand on y pense.
Ils allument un soleil où font tomber la nuit. Ils remontent le temps quand ça leur dit. Solitude des îles, cacophonie des villes. Rien ne leur suffit. Ils ont toujours un pied sur le quai des départs. Lisent moins bien le quotidien que les lointains transsibériens. Ils rentrent parfois chargés d'or, mais le plus souvent sans rien dans les mains. Les écrivains se moquent de dire vrai, mais donneraient tout pour un bon mot, celui qui éclairera le mystère des choses, la clé des grandes métamorphoses. Ils ne font rien comme tout le monde, se perdent sur une map monde. Ils ont beau être forts en thème, ils ont besoin pour dire je t'aime de 300 pages bien tassées, mais résume l'humanité. Le pourquoi de nos fuites en avant, s'ils nous racontent des histoires, c'est pour mieux nous placer devant le miroir. Les écrivains se moquent de dire vrai, mais donneraient tout pour un bon mot, celui qui éclairera le mystère des choses, la clé des grandes métamorphoses. Les écrivains se moquent de dire vrai, mais donneraient leur vie pour dire beau. Et quand ils nous conduisent au bout de la nuit, laissent une étoile accrochée bien haut. Les écrivains se moquent de dire vrai, mais donneraient tout pour un bon mot, celui qui éclairera le mystère des choses, la clé des grandes métamorphoses.
Tristan Malavoie, on écoutait les écrivains, et d'ailleurs j'en reçois une qui parle beaucoup d'écrivains et d'écrivaines de livres plein les oreilles, Clotilde Saille, bonjour.
Salut, et j'ignorais que Tristan Malavoie faisait dans la chanson aussi, côté Vincent Delerme,
tout ça. Sympathique.
C'est bien.
Et alors Clotilde, vous allez coordonner, piloter, animer, etc. Aime l'été.
Oui, parce que moi j'ai décidé qu'en été c'était le meilleur temps pour bosser.
Du coup, Les oiseaux chantent.
Il fait beau, les oiseaux chantent et j'ai réuni une sacrée belle équipe. Cette année, ce qui va être différent, c'est que l'an dernier, on faisait ça à une toute petite poignée. Là, toute l'équipe de Canal M va participer en bloc, animateur, chroniqueur, recherchiste. Tout le monde va y mettre du sien, plus des chroniqueurs extérieurs. Et tout ça va se faire vraiment dans le fun, où il sera Bon, évidemment, si vous me demandez de quoi on va parler, l'accessibilité, l'inclusion, c'est normal, c'est notre radio. On va beaucoup regarder ensemble où est-ce qu'on peut aller s'éclater dehors, parce que ça, ce sera un petit peu notre slogan cet été. C'est tout le monde dehors, et à Canalem, quand on dit tout le monde, c'est... Tout le monde. Alors voilà, ça va être très varié.
C'est une quotidienne d'une heure trente. C'est pour ça que l'équipe se donne du renfort en mettant tous la main à la pâte.
Oui, la gomme, oui.
Mais ce qui est fun aussi, c'est qu'on va animer à tour de rôle. Oui, donc il va y avoir des voix différentes, duos d'animateurs.
Exactement. On sera en binôme, hein, on peut dire ça comme ça, notamment Luc Fortin, vous, Emmanuel Robitaille sera là. Je vais aussi faire ma part. Kevin Breton, qu'on va retrouver en onde. Là, j'en oublie.
Il va y avoir Catherine Bourderon,
évidemment.
C'est bon pour la santé.
François Baruel. Alors, Christiane Campagna aussi. Ce qu'on veut, c'est créer cet été, recréer un petit peu l'univers de chacune de nos émissions en sujet, en version régulière, si vous voulez, en y mettant un peu plus un petit côté festif et estival. Donc, il va y avoir beaucoup de fun aussi là-dedans.
Génial. Alors, et ça commence
Ça commence le 26 juin.
Ouais.
Attendez, vite fait, de quoi on parle? De vegan, de littérature, de la santé, bien évidemment. On va même parler de PNL, imaginez. Maxime va nous amener d'est en ouest de notre grand pays. Alors, écoutez, je vais vous laisser conclure, mais on va pas
c'est
s'ennuyer.
Formidable. Merci Clotilde, on a bien hâte. Et c'est déjà fini pour Accès Libre. Merci à tous nos invités. Pour avoir plus d'informations sur les intervenants, leurs organismes, vous pouvez nous réécouter, évidemment. Visitez la page de l'émission Accès Libre sur canalm.vusevoix.com. Cette émission vous est possible grâce aux soins d'une magnifique équipe. Christiane Campagna aux communications, Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et aux choix musicaux, Benoît Rassette à la recherche, ici Anne-Laure Janson. Bel été à tous, on se dit à la rentrée pour toujours plus d'accès libre et d'ici là, on ne